Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Cacca in percussione, cerca l'ingresso in aria ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, 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 Cacca.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, grosso, grosso, gol di grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 15e épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et Pépé. Vous en avez l'habitude, je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume.
Bonjour Monsieur Crochet, bonjour à toutes les auditrices et à tous les fidèles auditeurs.
Alors Guillaume, ça y est, c'est reparti,
oui.
Le football est de retour sur les vertes pelouses italiennes et on a assisté en l'espace de 10 jours au dénouement de la Coupe d'Italie et à la reprise du championnat. Aujourd'hui, puisque les matchs filent, les matchs continuent, chaque soir il y a des matchs maintenant pour rattraper un petit peu le retard, on va donc parler des premiers matchs de reprise de Serie A, on va les appeler les matchs post post-arrêt, post-confinement,
ouais,
généralisé.
Post-Covid, hein, même si hein, bon, la pandémie est toujours là, il ne faut pas l'oublier. Mais disons que c'est après l'interruption liée au Covid et voilà, le football italien de retour.
Exactement. Et c'est donc, ça a recommencé samedi. Alors, je précise tout de suite, hein, on enregistre, il est mardi 16h30. Et donc, on revient sur les matchs de samedi, dimanche, lundi. Ça a commencé samedi avec Torino-Parme. Alors, je t'avoue que pour une reprise, moi, le calendrier m'a un peu étonné parce que il y avait une vraie attente, tu vois, au niveau italien, une vraie attente à l'international aussi, et de commencer tes jours de reprise par Torino-Parme et Vérone-Cagliari. Bon, je t'avoue que ça m'a un peu surpris. Je pense que ouais, d'avoir mis, par exemple, un Atalanta-Sassuolo avec au moins une équipe de Ligue des Champions, ça aurait
puis
été...
Pour le symbole, ça aurait été sympa.
Exactement.
Si c'était prévu. Mais bon, visiblement, il y a eu quelques problèmes. Mais c'est vrai que pour le symbole, la ville de Bergame, Sassuolo qui avait la dernière équipe à jouer... voilà, ça aurait été sympa. Bon, après, le calendrier, ce qu'il est, mais c'est vrai que comme toi, j'aurais aimé un match un peu symbolique pour redémarrer. Le principal est ailleurs, on va dire, et que
voilà,
pour le moment, tout se passe bien.
Alors, ce Torino-Parme, qui s'est donc achevé sur un match nul un partout, Guillaume, on n'a pas forcément été surpris de voir une équipe de Parme comme on l'avait un petit peu laissé, hein, c'est-à-dire clairement un manque de technique, de créativité, de joueurs capables de trouver un peu les attaquants bien placés, sachant que Kulusevski était transparent, je l'ai même trouvé hors de forme, c'est-à-dire qu'il a très peu accéléré le jeu, il a très peu accéléré lui-même par des courses ou par des mouvements. Donc forcément cette équipe de Parme elle a beaucoup subi, elle a réussi à accrocher le point du match nul, mais vraiment le Torino, Guillaume, qui est en danger hein, au classement, peut se mordre un peu les doigts de ce match nul, parce qu'ils avaient clairement le match en main et ils avaient surtout beaucoup d'occasions de mettre le deuxième but.
Disons qu'on a vu un match de reprise avec deux équipes qui à un moment aussi physiquement ont commencé à baisser le pied et de rythme, mais c'est vrai que voilà, Parme, moi je sais que c'est pas ton équipe favorite, disons, dans le jeu. Quand tu mènes 1-0, que tu as le match à peu près en main, c'est vrai que c'est dommage de laisser filer les 3 points, surtout comme tu as dit que le Torino est dans des situations compliquées. Et puis il faut pas oublier qu'ils ont changé d'entraîneur. Ouais. Mazzarri est parti, Longo est arrivé. Il y a eu ensuite peu après le confinement, donc pour lui l'adaptation n'est pas simple non plus. Il avait essayé le duo Belotti-Zaza, bon ça reste, ouais, c'est quand même très limité, que ce soit dans les déplacements. J'aime beaucoup Belotti, mais c'est vrai qu'associé avec Zaza, j'ai l'impression que ça colle pas forcément et que les deux sont pas complémentaires. Mazzarri avait essayé aussi à plusieurs reprises, ça n'avait pas forcément marché. Zaza a une carrière aussi particulière. Donc voilà, c'est vrai que le Torino peut se manger les doigts. Parme est venu probablement pour jouer le match nul ou arracher un point. Ils ont réussi. Après, voilà, Parme est quand même, malgré tout, Johan, aux portes de l'Europe, on va dire. Ils sont avec les LAS, avec Milan. Donc pourquoi pas jouer le coup jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, au niveau du contenu, de ce que produit l'équipe de Gervinho, ça reste un peu compliqué.
Ouais, je t'avoue que ça serait pas forcément une bonne nouvelle pour le jeu de voir Parme en Coupe d'Europe la saison prochaine. Moi, je suis c'est vraiment une question de jeu hein, et de feeling de ce que je vois sur le terrain. Si je reprends un peu les expected goals aussi de cette rencontre, bon Guillaume, pas de surprise, hein, 2,89 pour le Torino, ça témoigne bien des nombreuses opportunités, des nombreuses occasions créées par le Torino dans ce match-là, et puis Parme 0,22 quoi. Donc, avec 0,22 en expected goals, ils réussissent à marquer un but qui a une valeur de 0,06, c'est-à-dire que en gros il y avait 6% de chance de la marquer cette action.
Compliqué.
Voilà. Donc, effectivement, on a eu une équipe de Torino qui, moi je trouve, a fait un très bon match, qui doit être d'autant plus frustrée par le résultat parce qu'ils sont déjà dans une situation compliquée et que quand ils passent à côté des rencontres, bon bah la défaite est logique, mais quand ils font un match vraiment de qualité, c'est un peu compliqué pour eux de s'en tirer avec un seul petit point. Je crois que d'ailleurs que le nouvel entraîneur a toujours pas gagné de match avec le Toro. Du côté de Parme, ce qu'on peut dire quand même, c'est le super Zeppé qui fait vraiment un très gros match. Il a un arrêt face à Zaza à bout portant, il a le penalty de Belotti qui détourne.
On l'a souvent noté dans les gardiens qu'on notait. Honnêtement, Zeppé, ça a toujours
été
il revient
de blessure, il a une lourde blessure. On sait que Parme avait fait venir Radu notamment en backup aussi après le retour de Perrine au Genoa, bon, c'était un peu les chaises musicales des gardiens au mois de janvier.
Mais à l'image du Toro, tu vois, t'as Sirigu qui sauve souvent les meubles. C'est vrai que Zeppé aussi parfois, a sauvé Parme de prendre des buts. Après, voilà, c'est aussi beau d'un gardien, mais c'est vrai que Zeppé sur sa ligne dans les sorties aériennes, moi j'ai toujours trouvé très bon. C'était un bon gardien et j'ai vraiment l'impression que là, à Parme, il a trouvé un peu une réalité, un confort qu'il n'avait peut-être pas trouvé avant. Il y avait peut-être plus de pression pour lui. Et voilà, c'est vrai que c'est l'un des bons gardiens. Il y en a beaucoup en Italie, mais c'est vrai que Zeppé, c'est un des bons gardiens en Serie A cette saison.
Et puis donc, du coup, ce gros problème de finition hein, quand même du côté du Torino. Ils sont 15e hein, actuellement. Ils ont que 3 points d'avance sur Lecce, donc ils sont vraiment, vraiment ric-rac. Alors, ils ont un match en moins pour le moment. Mais dans ce problème de finition, on retrouve cette équipe avec seulement 29 buts marqués. Je suis en train de regarder en même temps, mais je crois que c'est la quatrième pire attaque de Serie A. Seul, il y a la Spal qui fait moins bien avec 20 buts. Il doit y avoir l'Udinese avec 21, Brescia avec 23, et ensuite c'est le Torino avec 29, la Samp avec 29. Donc vraiment, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, Belotti est un peu le marqueur, le témoin de ça. Alors tu vois, c'est ce qui est... Ce qui est dommage pour Belotti, c'est que effectivement sa suractivité, je pense, lui coûte vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de d'énergie et donc de concentration et de cativer. Il y a au moment de marquer, au moment de conclure les actions, un peu de maladresse pour le coup. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais j'ai trouvé un Belotti excellent dans le jeu contre Parme. Alors, il rate un penalty, donc effectivement, on retient ça. Mais par contre, dans le jeu, je l'ai trouvé très bon. Des ballons par-dessus la défense. Quand il trouve Zaza qui se présente seul face au but, c'est un super ballon par-dessus la défense. Il a fait des centres très très bien exécutés. Je trouve que dans le jeu et dans l'utilisation du ballon, il a été très bon parce que, au final, dans ce duo, ce qu'il faut dire, le duo que tu évoquais, Guillaume, ce qu'il faut dire, c'est que Zaza, en gros, c'est le 9. Et que Belotti lui tourne un peu autour, c'est-à-dire qu'il allait souvent se déporter à gauche, parfois à droite, c'est lui qui revient beaucoup aussi pour défendre, et donc cette suractivité, moi je trouve, lui permet pas de conclure et d'avoir la fraîcheur nécessaire de pousser les actions, mais tu vois, je me dis, dans une équipe un peu mieux armée, entre guillemets, comme l'a été le Torino par le passé, hein, parce que le Torino a eu aussi des meilleures périodes, J'aimerais bien voir ce Belotti avec quelques courses défensives de moins et quelques bons ballons en plus, tu vois.
Mais c'est vrai que Belotti, tu vois, pour le coup, si on prend sa saison un peu plus globalement, il a eu des passages à vide la saison précédente et même celle encore d'avant, il y a eu des blessures, ça a été compliqué pour lui. Mais c'est vrai que cette saison, honnêtement, on retrouve quand même des semblants et des traits de Belotti qu'on a connus avant. Mais je sais, j'ai l'impression que parfois, Zaza, il se marche un peu dessus, ils font les mêmes déplacements. Et comme tu dis, Belotti, il tourne souvent autour. Que parfois, quand il a le poids sur l'attaque, sur les épaules, Belotti, il arrive à prendre son équipe. Et voilà, là, avec Zaza, j'ai l'impression que ça colle pas. Bon, il y avait Yago Falke avant, tu te rappelles, c'était pas trop mal non plus.
C'était même très bien avec Falke en soutien.
Ouais, il lui tournait autour. Voilà, il y avait vraiment une connexion. Là, avec Zaza, j'ai l'impression que les deux se trouvent pas forcément, ou alors dans les espaces réduits. En tout cas, Belotti, voilà, alors c'est plus les 100 millions, tu te souviens, qu'on évoquait il y a 2-3 ans, mais en tout cas, on voit vraiment un joueur qui est redevenu le leader du taureau sur le terrain et en dehors. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'en national, et aussi, il a fait le boulot hein, cette saison. Donc, on sait qu'on manque un peu de neuf en national. Et lui, probablement, sera là à l'Euro en 2021. Et c'est vrai que s'il continue comme ça et que, voilà, moi, je ne le vois pas quitter le taureau forcément l'été prochain, parce que c'est vrai qu'il y a un certain lien entre les deux qui est compliqué peut-être à dissocier. Mais Belotti, clairement, alors t'es Immobilier qui est très bon canadien, mais Belotti pourrait être vraiment le numéro 9 de la nationale, et s'il n'y a pas entre-temps un joueur qui explose vraiment. Donc voilà, mais Belotti, en tout cas, cette saison, redevient le joueur qu'on a pu voir avant.
24 matchs, 9 buts pour une équipe qui est très très en difficulté lorsqu'elle doit faire le jeu et lorsqu'elle doit proposer du être proactive, on va dire, à la recherche du but. On passe ensuite à la deuxième rencontre de ce samedi soir. C'était l'Hellas Verona contre Cagliari. Victoire du club de Vérone 2-1. Alors honnêtement, la première mi-temps du Cagliari, t'as l'impression d'avoir le Cagliari, tu sais, de fin de saison qui est déjà maintenu et qui va jouer à l'extérieur un peu en pantoufle. C'était vraiment ouais, c'était vraiment pas un beau spectacle. Ils ont perdu tous leurs duels. Ils avaient zéro agressivité. Tous les contres étaient pour l'Hellas. Vraiment, c'est pas une équipe qui ressemblait au Cagliari du début de saison. Mais au final, le Cagliari du début de saison, qui était même quatrième à un moment donné, Guillaume, il est un peu lointain maintenant. Hein. Cagliari, ils sont onzième maintenant avec 32 points seulement. Enfin, seulement entre guillemets.
C'est la chute libre. Hein.
Voilà, ils ont plus que 7 points d'avance sur Lecce aussi. Hein, donc,
c'est incroyable. Tu te rappelles, ils avaient commencé avec Rolando Maran, alors maintenant qui est plus là, qui était remplacé par Zenga. Alors ça restera aussi un mystère du foot italien. Voilà, Zenga qui est quand même pas ce qu'il a prouvé pour le moment sur des bancs. Moi ça m'a assez surpris. Voilà, mais alors Maran avait fait un très bon boulot en début de saison. Après il a commencé à perdre le fil même du vestiaire. Il avait des choix un peu compliqués, un peu douteux. Et c'est vrai que Cagliari aujourd'hui, voilà, c'est vraiment en chute libre. T'aurais pu penser que l'interruption leur ferait peut-être du bien peut-être pas pour récupérer, parce que évidemment c'était un confinement, donc c'était compliqué de s'entretenir, mais au moins mentalement pour se reposer et recharger un peu les batteries. Mais quand tu vois le match du samedi soir, mis à part la réaction après le rouge de Boroni et le but de Simeone, dans le jeu, dans le contenu, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas du tout le Cagliari qu'on a pu connaître au début de saison. Alors souvent, avec toi, Yvan, on parle de surperformer, sous-performer. Voilà, en ce moment, il sous-performe. En début de saison, probablement qu'il surperformait.
Même beaucoup, hein, il surperformait beaucoup, même.
je pense quand même qu'il y a quand même une via di mezzo entre les deux, quoi.
Un juste milieu, ouais.
Exactement. Je pense qu'on peut avoir quand même mieux que ça. Surtout quand tu vois le milieu de terrain qu'ils ont, toi qui l'affectionnes tant. Enfin, et voilà, Cagliari est quand même une belle équipe sur le papier. Et c'est une équipe qui, moi, tu vois, je pensais l'avoir peut-être lutté jusqu'au bout, au moins pour la Ligue Europa. Mais pas shooter à ce point. Et là, aujourd'hui, comme tu l'as dit, ils ne sont pas encore inquiets pour tout ce qui est relégation et zone rouge.
Il y en a beaucoup derrière eux, mais en termes de points, c'est.
Et ils ont la chance que derrière, ça n'avance pas beaucoup non plus. Parce qu'entre les deux équipes de Gênes, le Toro, on en parlait, qui n'avance pas, Lecce qui a du mal aussi, Brescia, bon, qui est plus loin. Mais c'est vrai que, comme souvent en Italie, tu te souviens, l'année dernière, on a eu le même cas que la Fiorentina. Qui avait risqué gros, qui s'était sauvé la dernière journée. Cagliari, bon, ils vont pas jouer avec le feu, mais c'est vrai que c'est une déception au vu de ce qu'on avait pu voir en début de saison et des joueurs que tu peux voir dans l'effectif.
Tu parlais de la Viola, on y reviendra tout à l'heure, mais ils risquent toujours gros d'ailleurs, hein, cette saison. C'est vraiment la deuxième saison galère d'affilée. Du côté de l'Hellas, ce que j'ai bien aimé, c'est l'activité, l'agressivité. Tu sentais une équipe qui était quand même sans doute un peu plus près physiquement. C'est un peu la même physionomie qu'au final que Torino-Parme. Hein. Je trouve que Torino-Parme, il y avait une vraie différence physique entre les deux clubs. Et même chose, hein, le match du soir entre Vérone et Cagliari, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence de niveau. Et vraiment, tous les contres, tous les ballons étaient du même côté, celui de Vérone, jusqu'à la fameuse expulsion de Borini qui est un peu... un peu étrange, je trouve, hein. Le moment où il touche le mollet de Rogue, hein, de mémoire, c'est vraiment dans la continuité de son geste pour dégager le ballon, et au final c'est Rogue qui est un peu en retard dans le contact, et en plus tu vois Borini qui fait tout pour enlever son pied dès qu'il sent qu'il y a le contact, donc bon, j'ai trouvé ça très très sévère, hein. Après c'est un peu entre deux, hein. C'est voilà, ça peut être jaune et rouge. Donc après ce moment-là, Vérone a eu un peu plus de mal et un peu plus concédé de situations, pas des grosses occasions non plus. Ce qu'il faut quand même dire du côté de Cagliari, et après je reviens à Vérone, c'est que quand tu tentes, quand t'as une charnière à trois avec Kumbula, Ramani et Ampereur, je sais pas comment on dit d'ailleurs en italien, c'est ça, hein, Guillaume, le Ampereur, un truc comme ça, non, c'est ça?
Oui,
moi,
oui,
j'aurais tendance à dire empereur en français, mais voilà, quand t'as ces trois mecs très agiles dans le jeu aérien, très très costaud, très grand, qui verrouillent l'axe, balancer des centres pour le pauvre Simonet, c'est pas forcément une excellente idée. Je veux dire, quand manière d'aborder ta construction offensive, c'est de balancer des centres pendant 60 minutes jusqu'à l'expulsion de Borini avec trois mecs qui verrouillent l'axe comme ça, bon, un peu étrange. Bref,
surtout que l'Hellas, c'est une équipe quand même dans l'ensemble assez physique, hein, le terrain.
Même Faraoni, même si, par exemple.
Voilà, exactement. C'est une équipe qui a de la qualité, un ballon au pied, mais c'est avant tout aussi une équipe rugueuse, une équipe physique. Et encore là, tu vois, ça m'a assez surpris parce que on sait que l'Hellas aussi joue beaucoup, tu sais, sur l'appui public, qui est toujours très chaud. Et c'est vrai que même là, tu vois, ils ont réussi. Alors évidemment, c'est pas la même intensité parce que c'était la reprise et parce que c'était à huis clos. Et c'est toujours compliqué à huis clos de trouver une intensité folle. Mais c'est vrai que l'Hellas, sans l'appui de leur public, tu aurais pu dire, bon, ça va peut-être un peu compliqué. Après, il faudra voir aussi sur la continuité. Là, ils vont jouer le Napoli. Faudra voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ils restent dans les zones hautes du classement. Ils jouent toujours avec Milan, avec la Roma. Ils sont pas loin. Et c'est vrai que voilà, moi, je m'étais dit, voilà, sans le public, on va voir ce que donne l'Hellas. Et bon, pour le coup, ils ont assuré. C'est aussi dû aussi à la pauvreté de Cagliari en face. Donc, il faudra voir aussi sur le long terme.
Alors, on a beaucoup parlé de Kumbula et Ramani, hein, cette saison, Guillaume. Le troisième larron dont on a beaucoup parlé, c'est Amrabat, Sofiane Amrabat. Et là, je trouve qu'il a fait encore un match exceptionnel et d'une qualité physique et technique vraiment très très impressionnante après 3 mois d'arrêt. Moi, il y a une action, tu vois, je l'ai noté parce que je prends des notes devant les matchs et j'ai noté l'action de la 29e minute. Donc, si vous avez l'occasion de retomber sur le match,
comme Maurice Sarri, en fait.
Oui, c'est ça, sans les cigarettes, sans le filtre de cigarette dans la bouche. Mais vraiment, en fait, c'est une contre-attaque de Cagliari. Et en fait, il y a un des trois joueurs derrière qui est sorti de l'Hellas Vérone. Donc, ils sont plus qu'à deux. Et en fait, Amrabat va faire une course défensive en gardant un œil sur le ballon pour recomposer la charnière à trois, entre guillemets, de l'Hellas. Il va sortir au bon moment en contrant le centre de Nandes, puisque c'est Nandes qui accélère. Il arrive à contrer son centre. Et ensuite, derrière, il repart. Donc, c'est dire une deuxième course à haute intensité, pardon, pour essayer de récupérer le ballon. Il le pique dans les pieds de Nandes, toujours. Et il remonte ensuite, troisième course à haute intensité. Il remonte ensuite 50 mètres de terrain en sprint pour apporter le danger dans le camp de Cagliari. Donc, t'as vraiment l'intelligence tactique du mec qui se rend compte de la situation, une très bonne capacité d'analyse de la situation.
C'est tout ça à la reprise.
Exactement. En se disant, OK, là, on est découvert, donc je vais faire le rôle de troisième central. La bonne décision en sortant pour contrer le centre de Nandes. Ensuite, la capacité physique d'enchaîner un deuxième sprint pour aller récupérer le ballon dans les pieds du milieu uruguayen. Et ensuite, un troisième sprint pour aller reporter le danger immédiatement dans la surface, enfin, dans la moitié de terrain adverse. Vraiment, ça a été une action qui démontre un peu tout ce qu'est ce joueur. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a un gros volume de jeu. Physiquement, il est increvable, il est très bon techniquement. Voilà, il est de formation néerlandaise, donc la technique, ça s'apprend beaucoup là-bas et on mise beaucoup sur ça pour faire des différences collectives et individuelles. Voilà, ça va être une très bonne recrue, je pense, pour la Fiorentina la saison prochaine, parce que rappelons qu'il a signé en janvier pour la Viola et est resté à Vérone en prêt jusqu'à la fin de la saison. Mais j'ai hâte de le voir à un niveau un peu supérieur. Alors, c'est pas au classement cette saison puisque Vérone est devant la Fiorentina, mais dans l'esprit en tout cas. La Fiorentina est quand même censée, la saison prochaine, évoluer à un niveau supérieur de l'Hellas Vérone. Voilà Guillaume pour ce match. On passe ensuite à Atalanta-Sassuolo. Et Guillaume, on a retrouvé l'Atalanta d'avant confinement et sans grande surprise en fait.
Oui, bah une équipe qui marque toujours autant. Une équipe avec de l'intensité, enfin toujours agréable à voir. Honnêtement, on attendait beaucoup de cette Atalanta-Sassuolo. On n'a pas été déçus dans l'ensemble. Comme ça, quand on parle du score brut, on pourrait penser que Sassuolo, bon bah voilà, a pris une petite fessée. Mais bon, ils avaient très bien commencé comme Sassuolo. Ils ont raté beaucoup, beaucoup d'occasions, même dans tout l'ensemble du match. Mais c'est vrai que l'Atalanta en face, confinement ou pas, huis clos ou pas, t'as toujours les mêmes mécanismes. Et alors, ça me rappelle ce que disait Sacchi dans la Gazzetta pendant le confinement, l'interruption, où il disait que les équipes intelligentes avec des mécanismes forts, voilà, arriveront plus facilement à sortir à faire abstraction du huis clos. Et c'est vrai que l'Atalanta, dans leur jeu, dans leur mécanisme, dans leur sortie de balle, dans l'intensité, dans les mouvements, c'est vraiment une équipe exceptionnelle. Et on l'a retrouvée face à Sassuolo. On peut dire aussi que, défensivement parlant, et je sais que toi qui affectionnes les Zerbi, c'est probablement un axe de progression, et je pense qu'il s'en arrache le peu de cheveux qui lui reste, le pauvre des Zerbi. Parce qu'à chaque fois, défensivement, il y a une naïveté qui est assez dingue. Parce que chaque attaque de l'Atalanta, tu avais soit un but, soit une occasion.
Ouais.
Il y a eu en plus un but annulé. Mais c'est vrai qu'à la mi-temps, tu avais 3-0. Alors que Sassuolo, devant, a raté beaucoup d'occasions. C'est un match assez paradoxal. Et c'est souvent ce qui est paradoxal avec Sassuolo, c'est que ça joue très bien. Mais défensivement, voilà, même concilié. Bon, il n'est pas coupable sur les buts, mais c'est vrai qu'on avait parlé.
Il n'est pas décisif de
concilier. Voilà. C'est le problème d'un gardien qui est moyen, et pour une équipe comme Sassuolo qui joue beaucoup vers l'avant, qui n'a pas peur, qui attaque. Et le problème, c'est que quand tu regardes une attaque et qu'en défense, tu laisses passer tout ce qui arrive, c'est compliqué.
Et tu sais quelle est la différence sur ce match entre l'Atalanta et Sassuolo? C'est que l'Atalanta a mis ses occasions et que Sassuolo ne les a pas mis, parce que quand on regarde encore ces fameuses expected goals, on est à 3,17 pour l'Atalanta et 2,51 pour Sassuolo. Donc la différence, elle est pas énorme au final. Et témoin de ça, c'est Defrel qui, un peu comme Belotti, se bat beaucoup, fait beaucoup de courses, aide l'équipe sans arrêt, fait beaucoup d'appels. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, devant le but, c'est pas bon. Ouais, il vendange trop, quoi. C'est pas possible. Il a des vraies opportunités de marquer au moins deux buts sur ce match-là, quoi. Donc, c'est vraiment dommage pour cette équipe de Sassuolo, parce que, à la limite, qu'elle prenne beaucoup de buts, bon, d'accord, quoi. Mais sur ce match-là, ça peut finir en 4-4, en fait. Sur ce match-là, ça peut faire 3-3, 4-4, 6-4, 5-5, peu importe, quoi. Donc, au final, ils sont pas loin de leur philosophie de départ de marquer un but de plus que l'adversaire. Le problème, c'est que, Quand tu rates autant d'opportunités face à une équipe comme l'Atalanta qui te punit derrière, tu peux pas espérer grand chose. Et effectivement, défensivement, de toute façon, tu as des grosses difficultés. Et honnêtement, il n'y a pas eu de progrès depuis le début de la saison. Quand tu regardes les Toljan, quand tu regardes Marlon, quand tu regardes Peluso, moi je le trouve totalement cramé. Hein, et puis même le problème de Peluso, c'est que pour un joueur d'expérience, quand tu regardes comment il se positionne sur les coups de pied arrêtés. Bon, il y a beaucoup à dire. Hein. Il suffit de regarder le but de la tête de Zapata qui lâche le marquage de manière totalement étrange, on va dire. C'est Peluso. Donc voilà, manque d'agressivité, de concentration aussi en défense. Et puis il y a aussi un truc qu'il faut dire au niveau de la défense. C'était déjà pas l'année dernière. Guillaume a un point fort de Sassuolo, puisque on sait qu'avec De Zerbi, il y a beaucoup. Alors lui, il s'en défend hein. Dans les interviews. Il dit toujours qu'il travaille beaucoup la défense, que il invite les journalistes à venir voir comment il bosse à l'entraînement pour montrer qu'il y accorde beaucoup d'importance. Bon, on sait très bien aussi que ce qui compte beaucoup pour lui, c'est d'avoir le ballon et d'inciter sur les phases avec ballon et non pas sans. Mais du coup, par rapport à la saison passée, ils ont quand même perdu Rogério sur blessure. Il est toujours au club, mais il est blessé quasiment depuis le début de la saison. Ils ont perdu Lirola, qui est parti à la Fiorentina. Ils ont perdu Demiral, qui est parti à la Juve. Et donc quand t'as tes trois meilleurs défenseurs au final, parce que c'était vraiment le cas la saison passée, qui ne jouent pas, enfin qui ne sont plus là en l'occurrence, déjà qu'avec eux c'est compliqué. Alors sans eux, ça devient très très compliqué.
La qualité intrinsèque des joueurs en défense est discutable, et en plus collectivement ils s'aident pas beaucoup. Mais c'est vrai que De Zerbi, honnêtement, il a même une très belle cote en Italie. Hein. C'est un entraîneur qui est apprécié pour ses idées, ses dogmes, et on peut que apprécier sa volonté de toujours jouer vers l'avant. Et pour l'encore contre l'Atalanta, il a su comment les prendre au début de match. Les sorties de balle étaient très propres malgré le pressing de l'Atalanta. Mais voilà, que ce soit contre Sili, que ce soit sur les autres défenseurs comme Marlon, comme Peluso, parfois ça panique un peu, c'est un peu trop friable. Et malheureusement, ça te gâche tout ce que tu as étudié en entraînement. Et voilà, je te dis, il y a un problème de mécanisme et aussi d'individualité. Parce que quand tu perds, comme tu l'as dit, un joueur comme Demiral, alors malheureusement, qui s'est blessé avec la Juve, mais on a vu aussi toutes ses qualités. Même dans un club comme la Juve, on peut facilement s'imaginer qu'il manque beaucoup à la défense de Sassuolo. Mais voilà, De Zerbi, en tout cas, pour parler un peu de lui, et je sais que tu l'apprécies, c'est vrai que moi, j'aimerais bien le voir peut-être dans une équipe. Alors, peut-être pas beaucoup, beaucoup plus grande, parce qu'il y a encore un step, on va dire, avant de viser peut-être des clubs comme la Roma, comme Milan, comme d'autres. Mais en tout cas, tu vois, avec un effectif plus de qualité, tu vois, un De Zerbi à la Fiorentina,
moi, on j'aimerais bien voir. On pense tous les deux la même chose.
Ah bah voilà. Alors, j'aimerais bien que Spalletti aussi revienne, mais c'est vrai que De Zerbi à la Fiorentina, avec l'effectif, le matériel que tu as à la Viola, moi, je serais assez intrigué d'imaginer ce qu'il pourrait faire. Mais en tout cas, peut-être qu'il est temps, et tu vas me le dire parce que je sais que tu le suis de près, peut-être qu'il est temps aussi pour lui de viser un peu plus haut, du moins s'il en a l'opportunité.
Je suis un peu partagé en fait. J'ai l'envie, j'aimerais bien le voir développer sa solo encore un peu plus, parce que j'estime qu'il a pas fini son cycle et ça fait que 2 ans, je crois, de mémoire qu'il est à sa solo, donc il a pas fini son cycle, il a encore des choses à faire. La difficulté, c'est quand tu vends 3-4 meilleurs joueurs chaque saison, derrière tu repars sur c'est quasiment un nouveau cycle chaque saison, donc c'est là où il y a une petite difficulté. Et puis l'envie comme toi de le voir un peu plus haut. Effectivement, je pensais aussi à la Fiorentina parce que il a des joueurs qui pourraient retrouver comme Duncan, comme Lirola, et puis il y a des joueurs de ballon, il y a des vrais bons joueurs. On a parlé d'Amrabat qui va arriver, Castrovilli, Chiesa sera peut-être plus là, mais des joueurs comme Vlahovic, Ribéry, il y a quand même aussi de quoi faire en termes de matériel, Milenkovic, Pezzella en défense, on reviendra après sur la Fiorentina, mais il y a quand même de quoi faire. Je suis un peu partagé, ouais. J'ai envie de voir aussi ce qu'il peut donner plus haut, mais en même temps, j'aimerais qu'il continue à faire de sa solo une équipe réputée pour son beau jeu, qui fait jouer des jeunes joueurs, des jeunes joueurs italiens aussi, qui participe à essayer de faire émerger des talents italiens. Je reviens juste un dernier instant sur ce match, puisque tout à l'heure je parlais de l'attitude de Peluso sur le but de la tête de Zapata où il lâche le marquage, et je parlais un peu de problèmes de concentration, d'agressivité, etc. Il y a une stat qui m'a marqué. Alors j'ai pas la stat finale, j'ai pas pensé de la checker, mais à la 83e minute, Sky, je sais plus si c'était Sky ou DAZN d'ailleurs qui diffusait le match. À la télé, on a vu la stat apparaître. Non, d'ailleurs c'est un commentateur, je crois, qui
Sky,
a.
Sky, hein.
Ouais, c'est Sky.
Il me semble, ouais, ouais.
C'est un commentateur qui donne la stat. En gros, à la 83e minute, l'Atalanta avait fait 21 fautes. Sa solo avait fait 6 fautes. Voilà, ça montre aussi que
symbole, ouais.
ça manque de vie, ça manque de caractère, ça manque de d'agressivité. Et contre une équipe comme l'Atalanta, bon, il manquait un peu trop de choses, un peu trop de finition, un peu trop d'agressivité, un peu trop de concentration en défense pour que ça puisse bien se passer au final. Malgré une prestation qui, dans l'ensemble, sur certains moments du match, bah, était à la hauteur.
Ouais, quoi. Il y a des bonnes choses, hein. Mais quand tu pardonnes l'Atalanta, en face, ils ne pardonnent pas. C'est-à-dire que tu rates un but et dans la foulée. Ouais, moi, je conseille à ceux qui n'ont pas vu le match, j'ai regardé quasiment peut-être les 10-15 premières minutes où Sassuolo a vraiment été bon. Hein. Au bout de 2-3 minutes, il se procure une occasion, mais comme tu l'as dit, bah, Defray l'a beaucoup en danger. Berardi, je me souviens juste avant la mi-temps, une grosse occasion aussi. Et comme souvent, bon, bah, voilà, il est en route du pied gauche. C'est vrai que voilà, c'est un peu trop tendre à tous les niveaux, Sassuolo, mais bon, derrière, tu as quand même des belles idées et tout n'est pas agité. Mais malheureusement, tu as toujours les mêmes défauts et la défense, on en parle depuis. Et puis, j'ai envie de te dire, depuis le début de saison, même plus.
Ouais, depuis l'année dernière. Ouais,
voilà, parce que c'est vraiment le problème, ça, Sassuolo qui commence à dater.
Alors, Guillaume, on passe à l'Inter, qui était le premier des très gros clubs à reprendre le championnat. C'était un match qui avait été reporté, rappelons-le. Inter-Sampdoria, victoire 2-1 de l'Inter. Alors, c'est pareil, on disait l'Atalanta, on les a retrouvés là où on les avait quittés. Parme, on les a retrouvés là où on les avait quittés. Sassuolo, on les a retrouvés là où on les avait quittés. Et l'Inter, on les a un peu retrouvés là où on les avait quittés, c'est-à-dire partir très fort dans un match, faire une première mi-temps impeccable, impressionnante même parfois sur certains aspects, et puis se relâcher d'un seul coup, à la fois physiquement, mentalement, et remettre dans le match des adversaires. Ça, c'était le cas à Barcelone, c'était le cas à Dortmund, c'était le cas contre Sassuolo, je crois que contre Parme, c'était un petit peu la même chose aussi.
On avait contre le Barça aussi.
Voilà, donc très bonne première mi-temps de l'Inter. Avantage de 2-0 à la mi-temps, largement mérité, puisque la Samp ne faisait strictement rien. Et puis derrière, ça grippe un peu, ça remet la Samp dans le match, la Samp réussit à marquer. Et puis derrière, tu te dis, est-ce qu'on va revoir un peu ce qu'on voit début de la saison, c'est-à-dire l'Inter qui va perdre des points de manière totalement bête, après avoir largement dominé le match. Guillaume, tu peux peut-être nous parler un peu d'Eriksen. On a tous les deux apprécié la performance
ouais,
du Danois.
On fait évidemment un petit clin d'œil à Sinisas Touchaud, notre ami de l'AFP, qui suit beaucoup la presse italienne, la Gazzetta, qui a fait à peu près 440 articles pendant le confinement sur l'intégration d'Eriksen à l'Inter. Mais en tout cas, plus sérieusement, on a remarqué, on peut voir déjà contre le Napoli en Coupe d'Italie, même si l'Inter avait été éliminé, mais même là contre la Sampdoria, honnêtement, Eriksen, dans cette position de numéro 10, un peu d'électron libre. Ouais, il apporte quelque chose en plus techniquement. Voilà, c'est vraiment un joueur qui est au-dessus du lot. Ça, on le savait, mais on l'avait pas encore vu et on se posait quelques questions. Mais je sais pas si tu penses comme moi, mais j'ai l'impression que pendant l'interruption, Conte a un peu étudié les mécanismes de son équipe. Alors, sensiblement, ça reste les mêmes du 3-5-2 dans les sorties de balles et autres. Mais en tout cas, dans l'intégration d'Eriksen, il a vraiment trouvé une place pour lui. Derrière le duo Lukaku-Lautaro qui marche toujours autant, c'est les deux buteurs contre la Samp. Mais c'est vrai qu'Eriksen a quasiment tout fait contre la Sampdoria, il était dans toutes les positions. Voilà, il me fait penser un peu alors à sa juste valeur, à Çalhanoğlu, un peu à Milan, dans la position, on en parlera tout à l'heure, qui est dans le 4-2-3-1 de Pioli, d'électron libre. Et c'est vrai que la Sampdoria n'a jamais réussi à le suivre, n'a jamais réussi à le marquer. Et c'est vraiment un joueur qui t'apporte cette touche en plus, cette qualité supplémentaire qu'avait peut-être besoin l'Inter, surtout que Brozovic n'était pas là. Donc Eriksen est aussi beaucoup redescendu. Voilà, il fait un peu ce qu'il veut sur le terrain. Mais en tout cas, voilà, on commence à entrevoir le joueur aperçu à Tottenham. Et ça pourrait être vraiment aussi l'atout en plus de l'Inter pour cette fin de saison. Parce que depuis son arrivée, honnêtement, moi, je n'ai pas souvenir de grandes prestations d'Eriksen, à part ce coup franc, par exemple, dans le derby qui avait été assez dingue, qui avait tapé la barre. Mais sinon, voilà, c'était quand même assez mitigé. Là, contre la Samp, on a vraiment vu l'Eriksen au niveau, qui a envie de s'imposer, et Conte, qui a été assez froid aussi dans ses déclarations. On se rappelle avant le confinement, il ne savait pas trop où le mettre. On avait l'impression qu'il n'avait pas forcément validé le transfert. Et aujourd'hui, Voilà, Eriksen est dans les mécanismes, il s'intègre parfaitement à l'Inter. Et voilà, je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose voilà, qui pourrait aider l'Inter. Alors peut-être pas à jouer le titre, hein, parce que la Juve, bon, bah, voilà, continue aussi son ordre de marche en championnat. Pas ailleurs, mais en championnat au moins. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un joueur qui a réussi à intégrer Conte dans ses mécanismes. C'était très important au vu de... Bah, voilà, même s'il est en fin de contrat, l'Inter a fait un gros effort pour l'attirer en janvier. Donc c'est important aussi de l'intégrer dans le fameux 3-5-2, on peut dire même 3-4-1-2, pardon, aujourd'hui. Et c'est important de voir Eriksen à ce niveau-là.
Son intégration, elle a peut-être pris du temps aussi, parce que
oui.
Le fait de l'insérer dans cette équipe-là, ça a chamboulé pas mal de choses. Et on l'a vu lors de ce match contre la Samp, Barella joue beaucoup plus bas, du coup. Parce qu'au final, dans le 3-5-2 avant Eriksen, entre guillemets, celui qui avait le plus de prédisposition à aller de l'avant, de consignes pour faire jouer, pour aller toucher Lukaku et Lautaro, c'était Barella, c'était pas Sensi, c'était pas Brozovic, c'était pas Gagliardini ou Vecino, peu importe les différentes formules, c'était Barella. Et là, lors de ce match-là, Barella était associé à Gagliardini puisque Brozovic était absent et Sensi s'est malheureusement encore rechuté. Et donc, il avait un rôle un peu plus de facilitateur de jeu, c'est-à-dire je prends la balle, je la donne, j'oriente un petit peu le jeu, beaucoup moins de pénétration, etc. Et quand... Eriksen a disputé ses premiers matchs, on avait un peu le sentiment que Barella et Eriksen se marchaient un peu sur les pieds, que Barella allait beaucoup dans la zone d'Eriksen, et donc du coup Eriksen ne savait pas trop quoi faire. On a l'impression que ouais, il était un petit peu perdu et qu'on avait du mal à le toucher. Là, on a l'impression que, comme tu l'as dit, il a peut-être étudié un peu les mécanismes et mieux réorienté un peu les directives de chacun, mieux aligné ce que chacun doit faire selon les circonstances, perte de sans ballon, avec ballon, etc. Si le ballon est sur les côtés, si le ballon est dans l'axe, s'il y en a un qui pénètre, s'il y en a un qui redescend, etc. Donc voilà, ça a sans doute pris un peu de temps parce que en fait, ça modifier beaucoup de choses, c'était pas juste intégrer un joueur comme ça dans un 3-5-2, puisque le poste d'Eriksen, entre guillemets, n'existait pas dans ce 3-5-2. Et donc, tu pouvais pas mettre Eriksen en 6, tu peux pas mettre Eriksen en, je sais pas, comme Sensi, etc. Il joue forcément plus haut. Et donc, ça nécessitait forcément beaucoup plus de temps, et là, on commence à voir certaines choses, qui font que Eriksen peut être aussi une vraie plus-value pour la fin de saison des Nerazzurri. Et d'ailleurs, j'enchaîne rapidement, Guillaume, sur, un deuxième truc que j'ai observé que je ne voyais pas avant, ou en tout cas pas autant, ou alors ça m'a totalement échappé, et là ça m'a sauté aux yeux parce que peut-être que le championnat redémarrant, j'avais oublié certaines choses. Mais je commence, alors je pars du principe que ça n'était pas avant et c'est pas une erreur de ma part, mais je commence à voir des schémas de l'Atalanta chez Conte en ce qui concerne les stoppers. Plusieurs fois, j'ai noté... Skriniar et Bastoni avancer balle au pied jusque dans les 35 mètres adverses, être plus haut que le 6, donc Gagliardini, être parfois plus haut que Candreva ou Ashley Young, c'est-à-dire les pistons. C'est un truc que fait beaucoup Gasperini pardon, avec Toloi et Jim City, qui sont dans ce rôle-là d'avancer balle au pied, d'apporter le surnombre, de créer des décalages. Et l'Inter ne le faisait pas avant. Moi, je trouve qu'en tout cas, il le faisait pas avant. Moi, j'ai des souvenirs de la ligne de 3 qui, en gros, donc c'était clairement Skriniar, Bastoni et De Vrij, qui devaient trouver des lignes de passe et toucher rapidement les milieux, donc Brozovic, parce qu'il joue un peu devant la défense, il redescend, ou Barella un petit peu plus haut, ou un attaquant qui décroche, ou un pisson qui se propose dans le half space ou un peu en profondeur. Et ensuite, il restait en position de défense à 3, c'est-à-dire qu'il restait confortable sur la défense à 3. Là, je trouve qu'il y a une plus grande prise de risque, une plus grande participation au jeu, une plus grande implication dans les mécanismes de construction du jeu. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué chez Gasperini, que je n'avais pas vu chez Conte avant le confinement, l'arrêt, bref, je sais pas trop comment appeler cette période-là, mais que j'ai vu sur ce match-là, donc j'ai hâte de voir, je l'avais pas vu en Coupe d'Italie, hein, donc j'ai hâte de voir si c'était juste ce match-là, parce que la Samp défendait très bas, et donc ils pouvaient se permettre de changer un peu l'organisation et d'utiliser plus de joueurs dans la construction, ou si c'est vraiment un truc qui a été imposé par Conte, qui va être demandé maintenant à tous les matchs, parce que ça apporte quelque chose. Alors Bastoni, je pense qu'il est plus à l'aise que Skriniar à ce niveau-là, mais à voir comment ça peut se passer, parce que de toute façon Toloi c'est pas non plus un énorme technicien au départ, et il s'en est très bien accommodé sous Gasperini, donc j'imagine que Skriniar peut faire Exactement la même chose du côté de l'Inter. Un petit mot à dire sur la Samp, peut-être, Guillaume, pour boucler sur ce match-là.
Ouais, c'était assez compliqué, hein. Côté Samp, honnêtement, il y a quand même des équipes qui produisent pas grand-chose. Alors après le 2-1, voilà, sur coup de pied arrêté, ça a été un peu mieux. Et la Samp a commencé un peu à y croire. Mais honnêtement, dans le contenu, alors il manquait quoi à l'arrêt là, mais voilà, il y a quand même des équipes comme ça. Honnêtement, la Samp, depuis le début de saison, c'est compliqué, même avec Ranieri. Voilà, c'est une équipe qui apporte aussi un peu de qualité sur le terrain, mais voilà, j'ai l'impression qu'ils se trouvent pas forcément. Parfois, les bugs sont un peu disloqués. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Et voilà, t'as un joueur comme Gaston Ramirez qui pourrait, je présume, faire mieux que ce qu'il fait actuellement.
Totalement.
Donc, voilà, donc la Samp flirte aussi. On a vraiment, alors on pourra en parler peut-être un jour dans un podcast, mais les gros clubs, comme le Genoa, comme la Samp, comme la Fiorentina, comme le Torino, qui au fil des saisons descendent, et parfois se retrouvent à la limite. Le Genoa, le sait mieux que personne, la Fiorentina, on en a parlé tout à l'heure, le Torino cette saison. Voilà, il y a vraiment autant il y a des équipes qui sont très plaisantes à voir, et qui n'ont peut-être pas les points qu'elles méritent. Et il y en a d'autres, comme la Samp, qui a de la qualité, mais qui, sur le terrain, propose pas grand-chose. Et honnêtement, je ne sais pas si tu es d'accord, mais avant le 2-1, l'Inter avait quand même été plutôt tranquille. Et souvent, cette saison, comme tu disais tout à l'heure, l'Inter a la capacité à relancer ses adversaires, qui est assez dingue. Honnêtement, la Samp n'avait pas fait grand-chose avant.
Tout à fait d'accord avec toi, à voir ce que donnera la fin de saison de la Samp, mais pour la Samp, le Genoa, le Torino, on peut être un peu inquiet, même l'Udinese, hein, pareil, l'Udinese, et on peut être aussi un peu inquiet au vu des prestations avant l'arrêt, et puis pour la Samp, là, après arrêt. On passe du coup, alors Guillaume, moi je te fais un rapide topo sur Fiorentina-Brescia, puisque en fait j'ai vu que la dernière demi-heure, puisque je travaille avant sur d'autres podcasts, que j'enregistrais, et puis j'ai revu après le résumé global de la partie, mais je vais pas trop m'étaler, puisque sinon ce serait une analyse un peu biaisée. Ce que j'ai noté quand même, c'est que, encore une fois, cette équipe de la Fiorentina, ça vendange, mais ça vendange, c'est pas du tout concret. Chiesa, Castrovilli, c'est une catastrophe. Castrovilli, c'était bien mieux en début de saison en termes de finition. Là, depuis quelques semaines, alors semaines avant le confinement, ça piochait un peu, lui aussi victime, je pense, de son hyperactivité au milieu de terrain, et ensuite derrière, ça commence un peu à tirer la langue. Là, Castrovilli a encore deux occasions de tir à ras de terre, tir croisé en toute fin de match dans les 10 dernières minutes. Bon, bah, il cadre pas, quoi, donc c'est un peu compliqué. Chiesa, il rate encore énormément de choses devant le but. Vlahovic a raté aussi des choses. Bref, cette équipe de la Fiorentina qui devait l'emporter sans trop de difficultés, ce match face à Brescia, et puis se mettre un petit peu à l'abri, n'a pas réussi à le faire. C'est vraiment décevant. Bonne rentrée de Ribéry. Bon premier match post-arrêt pour Ribéry, qui a fait des bons mouvements, des bonnes accélérations, dans des bonnes dispositions physiques en première période. Et puis voilà, cette équipe de la FIO, elle est incorrigible, j'ai envie de dire, et elle devra faire très très attention à ce qui va se passer pour elle d'ici à la fin de la saison, parce que pour le moment c'est vraiment pas rassurant, malgré un effectif de moi je trouve de très bonne qualité, largement de effectif à les capacités normalement de jouer l'Europa League sans aucun problème. On passe à Milan, Guillaume, tu vas pouvoir nous faire un bon débrief de Lecce Milan que moi je n'ai pas vu hormis les buts, donc je te laisse la parole.
Écoute, alors ça a commencé assez doucement, ça a fini assez doucement, comme un match de reprise après 3 mois d'interruption. Mais en tout cas, voilà, c'était entre les deux, on va dire, un match assez plaisant, avec Milan qui a joué un bon match, hein, du contenu, du jeu. Comme je le disais tout à l'heure, l'un des meilleurs, et c'est assez rare pour être souligné, c'est Çalhanoğlu, dans son rôle un peu de numéro 10. Étrangement, Johan, on a souvent parlé, ouais. Mais c'est vrai que Çalhanoğlu, numéro 10, est un peu comme Eriksen, un peu en électron libre, parce que le premier but, par exemple, les trois de derrière, Bonaventura, Çalhanoğlu et Casillero, se sont échangés les positions, ils l'ont fait plusieurs fois pendant le match. Donc c'est vrai que ça donnait pas de point de fixation à Lecce. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans le 4-2-3-1 de Pioli, c'est la capacité des trois derrière Rebic, en attendant probablement Ibrahimovic, de s'échanger les positions. Et ça a créé un peu le gravure du côté de Lecce, qui n'a pas fait grand-chose. Liverani était complètement fou sur le banc. On l'entendait crier. Alors, c'est l'avantage du huis clos, il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, celui-là, d'entendre les coachs, voilà, Liverani était fou. Les joueurs de Lecce ne le suivaient pas. Il n'y avait aucune consigne qui était respectée, il n'y avait pas de pressing, des longs ballons. Falco, qu'on a tant loué, bon, bah, c'est vrai que contre Milan, on ne l'a pas beaucoup vu, bien pris par Théo Hernandez. Donc voilà, côté Milan, chez Çalhanoğlu, une vraie satisfaction. Cacilero, alors qui est probablement l'un des meilleurs depuis l'arrivée de Pioli sur le banc. Bonaventura, que j'ai trouvé vraiment sur courant alternatif. Physiquement, c'est un peu compliqué. On sait qu'il est en fin de contrat, on sait qu'il va partir. C'est sûr que Polichinelle, mais il va partir. Et c'est vrai que bon, bah, ça peut être un peu compliqué aussi pour lui. Rebic, qui est vraiment une satisfaction aussi de 2020, depuis qu'il s'est débloqué. Autant sous Gianpaolo, on ne l'a pas vu ni sur le terrain et ni ailleurs. Mais là, sous Pioli, il est en train d'exploser, mis à part son erreur face à Ayou, son carton rouge. Et hier, que ce soit même en défense, il a souvent défendu en attaque. Il a vraiment été l'un des meilleurs. Et mention spéciale, Johan, pour Kjaer, qui s'est blessé malheureusement pour Milan, mais en tout cas, qui est vraiment une bonne surprise. Autant à l'Atalanta, on avait vu quelques difficultés, on avait un peu perdu de vue.
Même très en difficulté à l'Atalanta.
Ouais, et autant à Milan, étrangement, il s'est complètement lancé. Et aujourd'hui, il a pris la place du Musacchio qui va se faire opérer et qu'on ne devrait plus revoir cette saison. Mais il avait déjà pris la place avant. Après, il y a Gabia qui est encore jeune et qui doit encore grandir. Mais en tout cas, Kjaer, la situation Kjaer-Romagnoli est assez surprenante et assez bonne. Donc je ne sais pas ce que tu penses de ce joueur-là. Mais Kjaer, en tout cas, voilà, est en train de se relancer. Et ça ne m'étonnerait pas que Milan… alors, ils ont une option d'achat. Je crois qu'elle est fixée à 3 millions peut-être ou un peu plus. Mais ça ne m'étonnerait pas. Je pense même que Milan va lever son option d'achat.
Moi, je suis assez étonné, pour tout avouer, parce que ses dernières expériences en club et même en sélection étaient compliquées. Bon, on va dire ça comme ça. Donc, je suis assez étonné qu'il retrouve son niveau. Je suis ravi pour lui. Hein, c'est pas la question. Je demande à voir dans le temps, hein, d'ici la fin de la saison. Alors après, quand il va revenir de blessure déjà. Et puis l'année prochaine, si Milan lève l'option. Mais je voulais que tu me parles un peu de ce jeune défenseur qui est rentré. C'est pas la première fois qu'on le voit. Toi qui suis Milan, c'est qui, d'où il sort, voilà.
Un joueur formé au club. On l'avait déjà vu cette saison à une ou deux reprises. Parce que Milan en défense centrale, voilà, avait perdu Zapata aussi, donc ils ont promu Gabia en sélection internationale. Évidemment, chez les jeunes, il n'est pas encore dans l'équipe A de la nationale, mais du moins chez les jeunes. Et c'est un profil très intéressant. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'à Milan, on dit beaucoup de bien, du moins en interne. Hier, alors je te dis ça au lendemain d'un match qui n'a pas été au top. Il cause un pénalty qui est un peu limite, honnêtement. J'ai l'impression que c'est plus Babacar qui pousse Gabia que l'inverse. Mais du moins, on va dire qu'il fait faute sur le pénalty. Assez incertain sur plusieurs actions. Mais voilà, au-delà de ça, on l'avait déjà vu avant dans la saison. Il a une bonne lecture du jeu, il a une belle relance. Au niveau de la tactique et de la technique, on en parle tous en bien. Donc c'est vrai que c'est un profil à suivre. Je ne serais pas étonné que Milan peut-être l'envoie en prêt. Du moins si un défenseur central arrive au mercato. Mais voilà, c'est un joueur à suivre. Après, on va rester prudent et calme, parce que tu te souviens les Deschilio, même les Petagna. Alors Petagna, je l'aime beaucoup, mais bon, voilà, peut-être que certains attendaient plus. Voilà, il y a eu beaucoup d'autres qui sont sortis du centre de formation de Milan, qui n'ont pas répondu aux attentes, comme Cristante par exemple. Je sais que c'est pas ton poulain, donc je peux le dire. Mais voilà, pour Gabi, en tout cas, les promesses sont là, le potentiel est là. Il commence à avoir du temps de jeu. Il va profiter probablement de l'absence de Musacchio qui va se
retirer. Ouais, il y a Musacchio, Kjaer qui est blessé et Duarte, il devient quoi?
Eh bah, écoute, Duarte, il revient en fin de cette semaine. Donc on enregistre, on est le 23 juin, et il devrait revenir avant Milan-Roma.
D'accord.
Duarte. Mais je ne suis pas certain que Duarte, dans la hiérarchie des défenseurs, passe devant Gabia. Donc ce sera à suivre. Mais en tout cas, voilà, c'est un profil à suivre, c'est un profil intéressant. Hier, contre Lecce, comme j'ai dit, il n'a pas été au top. Mais c'est un jeune joueur qui pourrait devenir très bon s'il garde la tête froide. Et pourquoi pas, je te dis, un prêt pour être intéressant, peut-être dans un club de série B. Ou alors Monza, on sait que Monza, Galliani, Berlusconi va essayer de piocher à Milan. Apparemment, ils sont sur Daniel Maldini. Donc, ce serait aussi intéressant peut-être de voir Gabi partir là-bas. Mais c'est un joueur du moins à suivre.
Alors, on passe au dernier match, Guillaume. C'est Bologne-Juve. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que la Juve est restée quand même sur une grosse désillusion en finale de Coupe d'Italie.
Oui.
avec un match. Alors c'est marrant parce que hier soir, après la rencontre, j'écoutais Dybala au micro de Sky en sur le terrain, pas en zone flash, mais directement sur le terrain. Bon, il disait oui, on a fait un bon match contre Naples. Bon, les autres, ils ont pas eu beaucoup d'occasions. Bon, on n'a pas dû. Certes, effectivement, ils ont eu des occasions puisque Ospina fait beaucoup d'arrêts. Pour autant, les deux premiers matchs post-Covid, entre guillemets, se restent pas dans les annales du côté de la Juve. On a eu 30 bonnes minutes contre Milan et ensuite ils sont éteints. Contre Naples, on a eu quelques à-coups où Ospina a fait des bonnes choses, mais globalement, c'était quand même pas fou. Là, ce match a été un petit peu meilleur. Guillaume, je sais pas ce que t'en as pensé.
J'ai vu que la fin de la deuxième mi-temps, si tu veux.
D'accord.
Tout savoir.
D'accord. Eh ben, écoute.
J'ai vu la fin de la deuxième mi-temps où Bologna, pour le coup, a plus attaqué. Que la Juve, mais c'est vrai qu'avant j'ai pas pu voir, donc c'est pour ça que j'étais impatient de connaître ton avis sur ce qui a été proposé par la Juve.
Eh ben écoute, alors déjà ce qu'on peut dire c'est que Bologne est restée fidèle à ses intentions habituelles, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup pressé l'équipe de la Juve et l'a souvent mise en difficulté en début de match, et notamment Chesney dans les relances jeu au pied quand il est pressé, c'est pas l'assurance tout risque, hein, c'est pas Barracuda et c'est pas Futé. Mais effectivement, fidèle au principe, pas mal de déchets par contre devant, à la fois Barreau, Orsolini, Sansone ont beaucoup beaucoup raté d'avant-dernier geste ou d'avant-dernière passe ou de dernier geste et dernière passe. Donc ça c'est un problème parce qu'ils ont au final ils se sont créés très peu d'occasions. Et puis le problème c'est qu'ils ont flingué leur début de match avec un penalty idiot, mais vraiment idiot de Denswil qui pour le coup on peut féliciter Sabatini pour pas mal de recrues depuis qu'il est directeur sportif. Là Denswil sa saison à Bologne est quand même très très compliquée. Autant Tomiyasu par exemple, moi est un joueur que j'aime beaucoup et encore hier contre la Juve je l'ai trouvé vraiment à l'aise. Autant Denswil c'est très très compliqué. Donc voilà, il fait une faute totalement idiote sur Matthijs de Ligt sur un coup de pied arrêté, il offre un pénalty qui permet à Cristiano Ronaldo d'ouvrir le score. Donc évidemment, derrière ça, la Juve a un petit peu laissé le ballon un peu plus souvent et puis a réussi à piquer en contre ou en le récupérant. J'ai trouvé Bernardeschi bon, et c'est bien de le noter quand il l'est, parce qu'on lui tape assez souvent sur les doigts, parce que... on lui tape sur les doigts, c'est un peu comme Cristante, il y a une espèce un prisme qui déforme l'analyse générale, c'est que pour Cristante, c'est les dirigeants et les techniciens qui décident de le mettre à un poste qui lui convient pas du tout et au final son rendement s'en retrouve fortement impacté. Et puis pour Bernardeschi, c'est globalement la presse italienne qui ont fait un chouchou et un futur espoir encore à 26 ans. Donc ça, c'est les deux prismes qui font qu'on tape un peu sur les doigts de ces deux joueurs-là, alors qu'on n'a rien contre eux. Hein. Mais effectivement, Bernardeschi, les prestations références dans une saison, il n'y en a pas beaucoup. Et là, pour le coup, dans un faux rôle d'ailier droit, parce que à la fois Ronaldo, à la fois Dybala, à la fois Bernardeschi étaient très proches, et étaient très dans l'axe, du coup, attiraient beaucoup dans l'axe, ont été plutôt bons, ce qui fait qu'ils ont combiné pas mal entre eux. Il y a eu des choses intéressantes, on n'est pas encore sur de la dinguerie totale, mais on est quand même dans du mieux, et je trouve aussi que Rabiot avait fait un bon début de match. Je l'ai jamais vu autant courir que dans les 5 premières minutes de cette rencontre-là, ça faisait bien longtemps que je l'ai pas vu courir autant, mais il y a eu de très bonnes choses aussi de Rabiot en début de match.
J'ai regardé les notes, il a eu dans la Gazeta 5,5.
Voilà.
Comme j'avais pas vu le match, tu vois, j'avais regardé un peu les notes.
C'est ça, c'est légèrement supérieur à la moyenne, mais c'est pas dingue. Il fait un bon début de match avant de s'éteindre. Mais honnêtement, Pjanic et Bentancur ont pas fait des rencontres. Je sais pas si t'as les notes sous les yeux, mais moi, ils m'ont pas non plus sauté aux yeux tous les deux.
Évidemment, le meilleur, c'était Dybala. Il me semble de
mémoire.
Ouais, alors
ça, tu vois, je suis un peu surpris parce que pour moi, vraiment, les meilleurs, c'est De Ligt et Bonucci dans l'axe, qui pour les deux ont fait une très très bonne rencontre. Bernardeschi aussi, moi je trouve que je l'aurais mis devant Dybala. Alors Dybala marque un but extraordinaire, donc sans doute que ça augmente un petit peu sa note. Mais voilà, oui, le milieu pour moi reste encore largement en dessous de ce qu'il doit faire, surtout dans une équipe comme la Juve et entraînée par Sarri. Et puis un petit mot quand même sur De Ligt, parce que bon, il y a eu un début de saison compliqué, il était bien revenu, et là je trouve qu'il est vraiment sur un rythme intéressant. Tranchant dans ses interventions, il est bien physiquement, ça y est, il communique mieux avec ses partenaires, il prend des initiatives ballon au pied, il remonte parfois le ballon et il gagne 10, 15, 20 mètres ballon au pied. Donc on retrouve un peu le De Ligt de l'Ajax, et c'est une bonne nouvelle pour la Juve parce qu'elle en aura bien besoin dans ses objectifs de fin de saison qui, rappelons-le, s'ils ne sont pas atteints, et d'ailleurs même s'ils sont atteints, honnêtement, même si la Juve est championne, je suis assez pessimiste sur l'avenir de Sarri à la tête de la Juve, parce qu'on voit trop de choses qui ne vont pas. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il y a vraiment un trop gros écart de style, de tout, quoi, de promesses non tenues, de... Bon, après, on lie aussi, évidemment, des frictions avec les joueurs stars. Bon, ça, c'est difficile.
Disons que c'était un mariage compliqué et qu'on n'avait pas forcément vu venir, au vu des dogmes de Sarri, de ce qu'il prône et de ce qu'il dégage aussi. Et c'est vrai qu'au bout de... Voilà, on va être quasiment à la fin de la saison. On devrait déjà l'être. On va attendre quand même, même si la Juve gagne le Scudetto, honnêtement, moi je sais pas toi, mais je retiens 5-6 matchs peut-être de la Juve.
Très bon, je suis même pas sûr.
Ouais, bon, il y a eu les deux peut-être contre l'Inter.
Exactement, c'est les deux meilleurs sans doute.
Ouais, il y en a eu un peu d'autres, mais c'est vrai que j'ai l'impression toujours que ça se joue sur un fil et que, enfin voilà, on a vraiment pas la Juve qu'on a connue avant. Alors évidemment, les pro Allegri s'en frottent les mains. Mais c'est vrai que le mariage Sarri-Juve, moi je suis un peu comme ça, je suis pas optimiste pour l'avenir. Je sais pas s'il partira en fin de la saison, mais ça m'étonnerait quand même. Mais, ou du moins, le voir au moins une saison de plus, voir si les mécanismes marchent mieux. Bonucci a dit qu'on verrait la vraie Juve de Sarri l'année prochaine, peut-être. Mais c'est vrai qu'il nous avait promis du jeu, même en pleine saison. Il avait dit que, tu te rappelles, je crois que c'était après un match de Ligue des Champions, il avait dit que lui, c'était après Lyon, que lui prenait le jeu en une, deux touches, comme à l'entraînement, sauf qu'en match, les joueurs ne le faisaient pas. Et là, on avait déjà compris qu'il y avait quand même une scission entre ce que demandait Sarri et l'avis du vestiaire. Là, on a vu que pour le rôle du numéro 9, il a été demandé, alors ce qui est normal aussi, à Douglas Costa, Dybala et Ronaldo, savoir ce que les trois préféraient. Et on a rarement vu aussi une Juve qui gagne. Alors hier, elle a gagné. Enfin, hier, on enregistre le lendemain de Bologne-Juve. Elle a gagné par 2 buts d'écart. Mais souvent cette saison, à l'image de celle d'Allegri, elle a gagné par 1 but d'écart. Et souvent, évidemment, par Ronaldo. Et c'est vrai que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et il faut aussi dire que l'effectif, peut-être au fil des saisons, a été amoindri au niveau de la qualité, au niveau des top players. Si on prend l'effectif de la Juve, il y a 4-5 ans, sur le papier, je ne suis pas certain qu'il soit beaucoup moins bon que celui de cette saison. Même au contraire, tu peux avoir des objectifs financiers comme l'échange Cancelo-Danilo. Mais si on parle de Danilo deux minutes, sportivement parlant, on avait des gros doutes au début, on avait des gros doutes pendant, et je pense qu'on aura des gros doutes à la fin. Enfin, ce n'est pas possible à ce niveau-là de rentrer, de prendre deux jaunes en l'espace de 20 minutes, 25 minutes, et du coup, dans le couloir dans lequel tu occupes, où c'est déjà la pénurie, tu vas probablement faire reculer Matuidi d'un cran. Voilà, à ce niveau-là, c'est pas d'Ajuve.
Exactement.
C'est pas une mentalité d'Ajuve, c'est pas un joueur d'Ajuve. Et j'ai l'impression qu'au fil des saisons, l'effectif vraiment s'amoindrit en qualité.
Et je finis juste, puisque tu parlais tout à l'heure de l'inefficacité offensive, je sais plus comment quelle formule tu as utilisé, mais sur les buts, sur les victoires par un but d'écart, je reprends les 5 derniers matchs de la saison, alors avant confinement et après confinement. Pour le coup, c'est 4 buts en 5 rencontres face à Lyon, Inter, Milan, Naples et Bologne. C'est que 4 buts en 5 rencontres et ils ont marqué ces 4 buts uniquement sur 2 matchs. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 matchs sur 5 où ils n'ont pas marqué quand le niveau s'élève un petit peu. Voilà Guillaume ce qu'on pouvait dire sur les 7 premiers matchs de reprise de notre bonne vieille Serie A. On continue évidemment à suivre tout ça, continuez à regarder. Alors en France c'est un petit peu compliqué avec l'affaire Bein Sport Serie A, Lega Calcio. Regardez comme vous pouvez hein, la Serie A et puis écoutez-nous, on fera les débriefs parce que nous on le voit. Et puis il y a des matchs tous les soirs quasiment hein, là 23, 24, 26, 27, 28 voilà, il y aura des matchs tous les soirs, donc continuez à nous écouter, continuez à nous suivre, continuez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à nous suivre sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, beaucoup d'autres, nous suivre sur Twitter, nous suivre sur notre Patreon où il y aura du nouveau contenu aussi très prochainement, et on se dit donc à très vite.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.